Vous écoutez RTL.
Bon après-midi sur RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hulk.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Alors, on a une petite heure là devant nous pour en faire le tour. Il y a un tiroir, vous allez voir, pour chaque thème. L'histoire, la science, l'aventure, la musique, la vie quotidienne et les grands destins. On ouvre quel tiroir, Sidonie ?
Ça tombe bien, celui des grands destins, Thomas. Bonjour.
Comme c'est bien préparé.
Bonjour à tous. C'est bien écrit tout ça.
Oh là là, c'est dingue.
Comme celui du couple le plus célèbre et le plus influent de toute l'industrie musicale. Les Américains, Beyoncé et Jay-Z. Vous avez forcément entendu une de leurs chansons. C'est un couple puissant qui est assez haut et c'est bas comme tous les couples, et qui les règle par chansons interposées. Amour, tube et scandale à venir vers 14h30.
Et tout de suite, avec les Killy, Guachel, Fourcade, Gros Piron, on chausse les skis sur RTL.
RTL.
Ça ne va pas, monsieur Duss. Ça fait la 30e fois que je vous le dis. Planter du bâton ne marche pas du tout. Oui, mettez-vous bien ça dans la tête et votre bonnet par-dessus.
Oui, je suis au courant, je sais ça, ça fait 30 fois, je le sais.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Le planter de bâton ne va pas du tout.
Le planter de bâton, ouais. Le planter, ouais, le bâton, ouais.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonjour Isabelle Blanc.
Bonjour.
Vous êtes
Bonjour.
Bien plus douée que Jean-Claude Duss dans les bronzés fonds du ski, puisque vous êtes champion olympique de snowboard.
Ah, bah, il n'y a pas de bâton dans le snowboard.
C'est ce que j'allais dire. Bon. Vous allez nous expliquer comment vous avez abandonné les bâtons. Vous avez donc été titré aux États-Unis en 2002. À vos côtés, Bruno Kaufmann, qui est journaliste, réalisateur de documentaires. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Vous êtes avec nous parce qu'on va se faire plaisir en revivant quelques-unes des plus grandes heures des Jeux Olympiques et des champions français aux Jeux Olympiques. Si j'égrène ces noms, Killy, Guachel, Gros Piron, qui vous a fait rêver, vous, Isabelle Blanc, quand vous étiez gamine ?
Alors c'est ma mère qui m'a fait rêver au travers d'elle.
C'est bien.
Voilà, parce qu'en fait ma mère était, on est originaire de Lozère nous, et ma mère était au comité des Cévennes en ski, et elle est venue sur Grenoble voir les Jeux Olympiques où elle a vu gagner ses idoles Killy et effectivement Marielle Guachel. Mm-hmm. Et elle n'a fait que de cesse que de me pousser, et on a atterri à l'Alpe d'Huez, j'avais à peu près 7 ans, une chance, et pour mes parents professionnellement et pour moi du coup, mais c'est vrai que c'était elle qui était derrière moi et qui n'a pas arrêté de me pousser.
Et un beau destin qui commence avec vous et cette histoire, Bruno Kaufmann. Qui est pour vous le champion olympique français le plus emblématique ? Ah, c'est toujours dur de choisir.
Oui, c'est compliqué parce que je pense qu'ils ont tous été quelque part un peu emblématiques. On peut prendre Gros Piron qui fait la couve de notre livre. Et Edgar, il a été emblématique à un moment donné parce qu'il est porteur du sport spectacle qui s'était énormément développé dans les années 90. Isabelle Blanc et Karine Ruby ont été, elles aussi, très emblématiques de l'émergence du snowboard dans les stations françaises. Et puis, bien évidemment, bon, le personnage emblématique de cette histoire-là qu'on a racontée, c'est bien évidemment Jean-Claude Killy.
Alors, Jean-Claude Killy, justement, effectivement, il est dans votre livre « Le jour JO, comment ils sont devenus champions olympiques » publié chez Glénat, coécrit Bruno Kaufmann avec Gilles Chapaz. Son surnom à Killy, c'était Toutoun, et il devient champion olympique de descente le 9 février 68, le début d'une razzia.
De ski alpin, descente homme, alpine ski race, men's downhill. Premier, médaille d'or. First, gold medal, Jean-Claude Killy.
On est donc en février 1968.
On dirait mon accent anglais quand je les annonce les disques.
C'est vrai. Il a pris des cours avec vous. C'est vous qui avez pris des cours avec lui, plutôt dans ce sens-là. Bruno Kaufmann, à quel point Jean-Claude Killy, on peut dire qu'il a dominé la saison de ski alpin
cette année-là, en 68.
Oui, bien sûr.
Il domine en 68, il domine en 66, en 67. 66-67, 67-68. Donc Killy, c'est deux années. Mais deux années où il gagne tout. 66, il est champion du monde à Portillo, au Chili, en descente, en combiné. C'est cette année-là, 66-67, c'est la première Coupe du Monde. C'est la première année, première édition de la Coupe du Monde de ski alpin.
Bon, il trosse les podiums, mais est-ce que, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît ce nom, mais est-ce que c'est déjà une star des magazines, vous voyez ce
mais
que
oui,
je veux dire.
C'est une star. Et non, il ne faut pas se tromper. Effectivement, Killy, tout le monde en parle, tout le monde invite les politiques, le showbiz, etc. Mais ça reste quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, qui est, voilà. Mais c'est vrai qu'il a une belle posture, sûr.
C'est un gars.
Il y a un engouement.
Joyeux, plutôt froid, plutôt. C'est quel est son caractère à Jean-Claude Killy?
Moi, je le connais pas personnellement.
Ouais. Qu'est-ce qu'il donnait
si
comme impression?
Je vous en parlerai un peu mieux. Ouais. Mais bon, moi, je pense que c'est surtout quelqu'un d'ultra déterminé qui a décidé de réussir dans son sport et qui va tout mettre en place pour y parvenir.
Et le jour J, il doit faire face à la concurrence d'un autre Français, Guy Perilla. Ça va se jouer à.
Parce qu'un destin.
Un destin, ça se joue à 800e.
800e.
Et oui, un destin. À l'époque, c'était rare qu'il y ait des si petits écarts à l'époque. Aujourd'hui, on a plus l'habitude, mais à l'époque, c'était plutôt des 20 centièmes, 30 centièmes, voire des secondes. Quand ouais.
Et donc, Perilla fait une course magnifique. Mais Killy, ce supplément d'âme, peut-être, on en parlait Isabelle tout à l'heure, peut-être ce supplément d'âme le jour JO. Et Killy était habité par ce sentiment-là.
Et on peut difficilement parler de Killy sans évoquer un nom qui est certainement beaucoup moins connu du grand public. Pourtant, il a joué un rôle essentiel. Son surnom, c'était Picabouic. C'est Michel Arpin. Il joue quel rôle à côté de Killy?
Michel Arpin, c'était un ancien coureur. C'était un copain à lui. Hein, ils étaient en équipe de France Espoir. Killy était de Val d'Isère. Arpin était de Sainte-Foy-Tarentaise. Et un jour, à Wengen, en 66... pour un slalom, Killy, c'est ski, ça marche pas, etc. Arpin était connu pour être un super préparateur de ski. Et comme ils avaient à peu près la même taille, ils avaient les mêmes équipementiers, dynamique et trappeur. Et que finalement, Arpin, il était à la fin de sa carrière. Hein, il avait eu en plus un accident, il avait des problèmes de vision. Donc, dans une discipline comme le slalom qui demande beaucoup d'acuité
donc
visuelle.
Donc il lui donne son matos.
Il décide d'arrêter et donc il donne ses skis, il participe à la deuxième manche et il donne ses skis à Killy qui va réussir une super deuxième manche.
Et il va devenir le préparateur de ses skis, c'est ça?
Voilà, il va devenir papa et même plus que ça, c'est son confident, ils sont très très proches, c'est même l'espion de Killy. Il va dans les équipes adverses, prendre des infos, essayer de voir un peu comment ça se passe. Ils sont vraiment en symbiose, c'est un binôme et quand on regarde d'ailleurs les dates. La réussite de Killy, elle est directement liée à ce binôme constitué avec Michel Arpin.
Voilà, ce sont les secrets en fait de ces médailles olympiques, de ces champions olympiques qu'on vous révèle dans la curiosité. Dans un instant, Isabelle Blanc va nous raconter sa victoire à Salt Lake City. Il est question de vocalise, vous verrez.
C'est au cœur de ces montagnes de Corée du Sud que sera donné le 9 février le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver 2018. Un événement planétaire de plus pour les Sud-Coréens après les JO d'été de 1988 et la Coupe du Monde de foot en 2002.
Pour satisfaire votre curiosité.
Dans la région de Pyeongchang, l'heure est au dernier préparatif sur les sites de ski et de glisse et les villages d'athlètes.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est dans un peu plus d'une semaine, le 9 février, le démarrage des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. L'occasion pour nous de revivre les plus belles victoires françaises aux JO. Avec nous, Isabelle Blanc, championne olympique de snowboard en 2002 et le journaliste Bruno Kaufmann. Isabelle Blanc, dans quelle discipline exactement vous l'avez emportée à Salt Lake City?
Alors ce fut en snowboard et la discipline c'était le parallèle avec mon amie Karine Ruby.
C'est quoi ça le parallèle? Vous nous expliquez?
Parallèle, c'est deux parcours, deux slaloms identiques, tracés à l'identique. Et effectivement, on est en concurrence avec l'autre concurrent et on doit aller le plus vite possible sur la manche. Le premier arrivé en bas est celui qui a gagné.
Qu'est-ce qui vous a donné envie dans votre carrière de faire du snowboard? C'est un coup de cœur?
Il paraît qu'il y a une histoire de soirée en boîte. C'est ça. Vrai ça?
Mais écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, à l'âge de 7 ans, avec mes parents, on est arrivé à l'Alpe d'Huez. Donc ma mère m'a directement mis au ski. Moi, j'ai une sœur un peu plus âgée qui, elle, a préféré les pistes de danse.
C'est bien aussi.
Du coup, voilà, elle a gagné à l'époque, c'était dans les années 90, un snowboard en boîte de nuit. Voilà. Donc,
elle vous l'a refilé?
Je lui ai volé. Je lui ai volé parce qu'effectivement, elle n'allait pas sur les pistes, trop sur les pistes de ski. Et du coup, moi, à chaque entraînement, parce que je faisais quand même du ski alpin en compétition, et à chaque fin d'entraînement, entre midi et deux, je rentrais à l'hôtel de mes parents et j'allais chercher cet engin.
Et vous êtes bonne tout de suite, Isabelle Blanc, en snowboard?
Non,
c'est une révélation?
Non, pas bonne tout de suite. J'ai essayé. Donc mes parents avaient un hôtel qui était sur une piste à l'Alpe d'Huez qui, à l'époque, a été renommée, heureusement, mais s'appelait la piste des idiots. Donc je m'exerçais sur la piste des idiots. Elle portait bien son nom parce que je chutais souvent. Mais au fur et à mesure, avec effectivement tout ce que j'avais appris en ski, l'équilibre, la glisse, c'est arrivé très vite. Alors j'arrivais pas, les premières compétitions, j'arrivais pas souvent en bas, mais quand j'arrivais, j'étais plutôt bonne.
Bruno Kaufmann, dans votre livre Le Jour JO, publié chez Glénat, vous racontez que 4 ans avant 2002, 4 ans avant Salt Lake City, il y a Nagano, et ça se passe pas bien pour Isabelle. Ça avait tourné court, cette aventure. Pourquoi?
Une chute, mais elle va nous raconter.
Je voulais pas lui faire raconter les mauvais souvenirs. Mais
c'est un bon souvenir, c'est ne croyez pas ça. Ah heureusement, bon heureusement qu'il y a eu cette chute. Non, mais écoutez, après des années de réflexion, maintenant je peux l'assumer. J'étais pas dans un état d'esprit qui était bon pour gagner à cette époque-là. J'avais peut-être techniquement ce qu'il fallait, mais Karine était bien au-dessus et avait l'esprit pour. Elle avait ce supplément d'âme ce jour-là. Moi, je l'avais pas. J'étais dans un esprit un petit peu. Je portais des idées politiques par rapport à mon sport qui n'étaient pas forcément bonnes.
C'est quoi des idées politiques?
Des idées politiques.
On ouvre des grands yeux.
Politique, snowboard.
Oui,
on veut savoir.
Ça
nous intéresse.
Non, mais à l'époque, quand le snowboard est arrivé, donc sur les concours, on avait des pionniers qui ont créé des compétitions dans une certaine fédération. Et puis, au moment où le snowboard est entré aux Jeux Olympiques, le CIO a dû désigner une fédération pour qu'on nous qualifie, c'était la fédération, la FIS, qui était le ski, et nous, on était dans l'autre. Donc, il y avait un petit peu des conflits politiques, d'enjeux qui nous dépassaient, nous, les athlètes, et avec Karine Ruby, on est entrée tout de suite en conflit, parce qu'elle était la meilleure d'une fédération, moi de l'autre. Tout ça est un peu compliqué, en tout cas.
Ça vous a pollué un peu l'esprit.
Voilà,
quoi, on
ça
va
m'a
dire
pollué
ça comme
l'esprit,
ça.
Et si je suis Tanana Gano, c'est tout à fait normal, et que Karine Ruby gagne sa médaille, c'est tout à fait normal.
Voilà, et ces années-là, elles sont marquées vraiment par le duel.
Le duo, toutes les deux.
Ruby-Blanc, et qu'on va retrouver bien évidemment à Salt Lake City.
La regretter Karine Ruby, parce que malheureusement elle n'est plus là pour nous entendre. Alors Isabelle, il faut raconter cette course victorieuse. Avant une grande course, vous avez un rituel. Et vous êtes seule sur le télésiège et vous faites quoi?
Je fais des vocalises dans les graves.
Dans les graves.
Oui, voilà. Si vous voulez, après Nagano, il y a eu une remise en question, comme tout athlète qui se respecte. À un moment donné, si on veut trouver des solutions, il faut aller les chercher. Donc moi, je me suis entourée de différentes personnalités qui avaient des compétences à l'époque qui étaient surprenantes. Mais en tout cas, je suis allée chercher une psychologue, une prof de chant, un ostéopathe énergétique. Enfin, des choses qui me ressemblaient plus ou moins pour aller chercher, les régler, comme on dit. Un athlète de haut niveau, c'est un peu une Formule 1. Aller régler des choses qui me correspondaient. Et puis donc j'avais cette prof de chant qui soignait par la vibration, qui me proposait de faire des vocalises dans les graves à chaque remontée pour me rapprocher du sol et pas être trop perché.
Efficace.
Après c'est un peu des effets aussi certainement placebo, je sais pas si, en tout cas ça me permettait de me rassurer et de me dire que ce que je faisais c'était bon et que ça me mettait en confiance, donc du coup ça m'a permis de gagner.
Mais vous chantiez quelque chose de précis ou...
Non,
vous inquiétez pas, on va pas vous faire chanter.
J'espère bien, attention. Mais non, c'était des vocalises tout à fait classiques de chant.
Autre chance de médaille, dans 10 jours en Corée, Martin Fourcade en biathlon vous dévoile ses secrets juste après la pause sur RTL.
Une nouvelle fois grâce à vous, RTL se classe première radio de France sur tous les indicateurs et réalise sa meilleure année depuis 10 ans.
Merci à vous et aux 6 500 000 auditeurs qui font chaque jour le succès de RTL.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci.
RTL, première radio de France.
Un esprit d'équipe, ça s'entend tout de suite.
Dans 10 jours, tous nos regards vont se tourner vers la Corée du Sud qui accueille les Jeux Olympiques d'hiver. Parmi les chances françaises de médailles, il y aura un certain Martin Fourcade, star mondial du biathlon.
Médaillé d'or.
An Olympic champion.
Завоевал представитель Франции Мартин Фуркад.
Sa médaille d'or, s'il y avait du russe, c'est parce que c'était à Sotchi. Forcément, avec nous sur RTL pour parler de ces champions olympiques français, Isabelle Blanc, championne de snowboard en 2002, et le journaliste Bruno Kaufmann. Bruno, rappelez-nous, Martin Fourcade, c'est combien de médailles olympiques? Est-ce qu'il y en a eu tant que ça, d'ailleurs? Parce qu'il y a beaucoup de titres de champion du monde.
Oui, il y a 11 titres de champion du monde, mais il y a 4 médailles. Une médaille d'argent à Vancouver et à Sotchi, 3 médailles, 2 médailles d'or et une médaille d'argent.
Vous nous rappelez en quoi consiste le biathlon, pour ceux qui ne connaîtraient pas?
Alors le biathlon, c'est deux épreuves, c'est le ski de fond entrecoupé de séances de tir à la carabine. Donc deux efforts un peu contradictoires, où il faut arriver sur le pas de tir, et alors qu'on le cœur qui bat, il faut arriver à contrôler sa respiration pour toucher les cinq cibles. Une cible pas touchée, c'est 150 mètres qu'il faut faire en plus.
Et ça permet aux concurrents de prendre de l'avance.
Voilà, donc c'est pas facile.
Bruno Kaufmann, dans votre livre Le jour JO, comment ils sont devenus champions olympiques aux éditions Glénat, vous nous faites revivre justement la victoire de Martin Fourcade à Sotchi il y a 4 ans. Et là aussi, comme pour Killy, un ancien champion l'accompagne. Il l'appelle son luthier. Pourquoi il le surnomme comme ça?
Parce que
il se compare à un instrument.
Le rapport du biathlète à sa carabine, c'est le même rapport du violoniste avec son violon.
Ouais.
Donc, il faut effectivement Franck, qui a été vice-champion olympique de tir aux Jeux de Barcelone en 92.
Franck Badiou, c'est ça.
Voilà. Ouais. Prépare la carabine, il faut que la crosse épouse parfaitement l'épaule, etc.
C'est fait sur mesure ?
Le prolongement du bras, quoi.
Ouais. C'est du sur mesure ?
C'est du sur mesure, ouais. Ouais.
Il va avoir le temps de savourer sa victoire, cette médaille d'or olympique. Pourquoi ?
Ben oui, parce qu'en fait, sur le dernier pas de tir, ses concurrents directs vont rater des cibles. Donc il est assuré, comme il doit faire des tours supplémentaires, mm-hmm. il est assuré de gagner. Bon, après. Il ne faut pas faire de chute, voilà, mais il sait que, en faisant attention, il va être champion olympique.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Isabelle Blanc ? Parce que vous, au contraire, ça ne se savoure pas. C'est tellement dans l'instantané, ça se joue au centième, donc vous n'avez pas eu le temps de vous rendre compte avant de gagner que vous aviez gagné, j'imagine.
Pas du tout, ah, j'ai savouré chaque instant.
C'est génial.
En fait, comme on est en parallèle, c'est des hits, hein, un peu comme en tennis, on rencontre différentes concurrentes, il faut les passer. Et chaque course, c'est un plaisir immense. Et puis, selon la concurrente qu'on rencontre, on se connaît quand même bien, c'est vraiment comme en tennis. Et effectivement, quand j'ai appris que je devais concourir la finale contre Karine Ruby, championne olympique en titre, et puis l'athlète la plus talentueuse de notre génération au snowboard, ça a été une chance, un plaisir, et j'ai adoré cette nouvelle-là. Et en fait, ça s'est pratiquement joué au départ, c'est-à-dire que c'est souvent ce qu'on retrouve dans le livre, hein, des histoires de doublés comme ça. On s'est croisés au départ, je l'ai regardée et j'ai senti que j'avais gagné. J'ai gagné avant le départ. Enfin bon, après, elle avait sa médaille d'argent de toute façon, mais on était très fiers toutes les deux.
Vous sentez quoi à ce moment-là ? Ça explose dans votre tête, dans votre corps ?
Alors non, à ce moment-là où on se croise au départ, je sens que j'ai gagné, mais il faut quand même que je passe la barre au départ. Il faut quand même que je reste concentrée. Et puis effectivement, comme j'avais chuté quand même 4 ans auparavant à la dernière porte, je me souviens très bien que les dernières portes de ce dernier parcours avec Karine, je me suis accroupie sur la planche pour assurer mon équilibre. Et je me souviens avoir eu les poings serrés près de mon corps et je criais, enfin j'ai eu un cri de guerre pour passer l'arrivée vainqueur.
Isabelle Blanc, qu'est-ce que ça vous inspire, la lecture de ce livre de Bruno Kaufmann et de Gilles Chapaz, l'idée d'une filiation peut-être avec tous ces grands champions Jean Vuarnet.
Enfin, moi, ce que j'ai adoré à la lecture, c'est effectivement tous ces chapitres d'histoire de vainqueurs, de champions olympiques, mais au travers de tout ça, il y a toute une histoire de l'histoire du sport des neiges, où effectivement, on démarre sur les premières innovations matérielles, ensuite on voit l'évolution avec l'encadrement, où on a les premiers techniciens de ski, les entraîneurs. Ensuite, on a une évolution vers... Enfin, on prépare des Formule 1, hein, c'est aussi de la mécanique. Après, on va effectivement sur le mental. Ensuite, il y a effectivement les blessures, parce que et le matériel et le physique évoluent tellement que le corps peut ne plus suivre. Donc, on a beaucoup de blessures et des histoires qui sont vraiment magnifiques, avec des victoires qui sont incroyables. Et tout ça, on voit effectivement où va le sport de haut niveau, en tout cas dans le sport des neiges. Et moi, j'ai adoré redécouvrir ces histoires et découvrir des histoire que je connaissais pas.
Et être dans la fabrique des champions, c'est ça qui est passionnant et qui nous intéresse dans la curiosité. Des champions et des championnes à venir encore sur RTL. Deux sœurs, les Guachel.
RTL.
De 14h à 15h,
la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
J'ai toujours débuté les grandes victoires de ma carrière par le géant. Le Somme géant, c'était l'épreuve que je m'attendais le plus à gagner à Grenoble.
Toujours avec Isabelle Blanc, championne olympique de slalom en snowboard 2002, et le journaliste Bruno Kaufmann. On dévoile avec vous les secrets des champions olympiques français de ski, des Jeux d'hiver. On vient d'entendre un rapide extrait d'une déclaration de Killy, maniaque du détail. On a parlé de Martin Fourcade et de son luthier, ancien champion de tir. Isabelle Blanc et vos vocalises sur le télésiège. C'est un peu résumé, il y a eu bien d'autres choses aussi pour devenir championne olympique. Voici les sœurs Guachel, Marielle et Christine, alias Titi, on est en 64 et leur gouaille fait irruption sur RTL.
Marielle, il y a ta mère à l'autre bout, attends, je vais te mettre le casque. Voilà, elle nous entend maintenant.
Eh bien...
Allô, maman ? Allô, ma chérie, oh, merci.
Ben, maman, c'est un peu le titre. Il est pour toi, il est aussi pour Titi. Toutes les deux, on va gagner.
Oui, mais il est pour Titi, parce qu'elle était formidable.
Bruno Kaufmann, on est en 64, c'est l'histoire de deux sœurs qui vont truster les podiums. Et alors, si on doit raconter une seule histoire, il y a tout le détail dans votre livre, c'est une histoire de dossard, de numéro de dossard. Lequel ?
En fait, donc, elles vont faire le doublé slalom géant et l'une Christine va gagner le slalom, Marielle va gagner le géant. Mmh. Marielle sera deuxième du slalom.
On inverse et, dans notre course.
On inverse pour le géant. Et les deux gagnantes, c'est Christine qui gagne le slalom et Marielle le géant, avaient toutes les deux le dossard 14. Et elles y voient finalement, enfin Marielle, quand elle récupère le dossard 14 pour le géant, y voit un signe du destin. Et ça la conforte. Dans le projet de gagner, elle pense qu'effectivement, grâce à ce dossard, elle va pouvoir l'emporter.
Et le camp français, il croira encore au destin 4 ans plus tard, pourquoi ?
Voilà, puisque Killy, pour la descente à Champs-Rousse, pour la descente olympique qu'il va gagner, qui est la première épreuve de ces trois victoires aux Jeux de Grenoble, il avait le dossard 14.
Et ben voilà, merci beaucoup Bruno Kaufmann, merci Isabelle d'être venue dans notre studio de la curiosité sur RTL. Et donc Bruno, vous publiez avec Gilles Chapaz le jour JO, comment ils sont devenus champions olympiques, c'est aux éditions Glénat. Merci, à bientôt.
On peut peut-être rappeler que ce soir, oui, juste un mot, juste pour rappeler que de 18h à 20h, on fait une dédicace à la Fnac Montparnasse.
Ah, c'est pour les Parisiens, ça. Ok, ben, le message est passé pour les Parisiens. Merci beaucoup, ciao.
Vous écoutez RTL.